Popopien, pas Popopien, et tous les autres aussi, bonjour. Le coup du ver de terre amoureux d'une étoile, c'est peu dire qu'il aura servi celui-là sur le grand marché de la séduction post-adolescente. Et encore, Totor envisageait-il les étoiles du firmament plus que celles de la danse? Mais la métaphore fonctionne dans les deux sens. Oui, nous sommes des vers englués dans la glaise devant le spectacle aérien des lumières célestes ou plus prosaïquement devant la grâce surnaturelle des danseuses dites étoiles. On voit quelqu'un réussir à monter un meuble Ikea, on se dit qu'on y parviendra sans doute aussi un jour, même dans une autre vie, mais une danseuse étoile qui défie les lois de la gravité comme celle de l'entendement dans des enchaînements virtuoses, il faut vraiment être un taliban ou un individu végétalisé par l'abus d'émissions de télé-réalité pour ne pas en admettre la beauté stupéfiante. Notre invité, Raphaël Persona, ne danse pas dans la série L'Opéra dont il vient nous parler aujourd'hui. Il dirige d'une main de maître, dans un gant de satin, cette troupe à la réputation universelle au carrefour de toutes les pressions. Un peu comme notre directrice bien-aimée, Laurence Bloch, même si vendredi dernier, tard dans la soirée, on l'a vu mettre le feu au dance floor de la fête de rentrée France Inter. Je ne juge pas, je constate, suite à l'absorption de quelques bouteilles de Rosé Garcia. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Raphaël Persona est aujourd'hui l'invité de Popopop et en son honneur, nous rebaptisons cette émission Persona très grata. Popopop en ce lundi 5 septembre 21, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Raphaël Persona.
Et bonjour.
Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, on dit bien persona, pas persona.
Exactement. Exactement. C'est comme Avoria ou la Clusa. Voilà. Je cite souvent ces deux exemples.
Persona. Et vous êtes persona très grata aujourd'hui dans cette émission.
Merci.
Parce que c'est la première fois que vous venez dans Popopop. J'ai envie de dire que ça n'est pas trop tôt. Parce que oui, mon cher Raphaël, on vous suit fidèlement depuis des années. Mais les caprices des parcours promo, bon, ne vous amènent chez nous qu'aujourd'hui. Bienvenue donc. Et puisqu'on parle de pop culture ici, quel rapport entretenez-vous avec elle? Est-ce que vous êtes un gros consommateur, par exemple, de séries, BD, films, musique?
Oui, énorme. Beaucoup trop. Je ne sais pas si on peut dire trop, mais oui. C'est ça rythme mes journées.
Voilà. C'est quelque chose qui vous nourrit?
Oui, depuis la plus tendre enfance, vraiment.
Avec des goûts marqués, plus particulièrement pour...
La musique, mais ça va traverser un peu toutes les musiques, pas que la pop, mais et puis tous les pays, je les découvre à travers la musique en général. Mmh. C'est plutôt la musique.
Et puisque vous participez vous-même aujourd'hui à une série, l'opéra sur OCS, dont la diffusion démarre demain, vous êtes vous-même amateur du genre, du format?
Du format de série, oui. Je m'y suis mis comme tout le monde. Enfin, j'ai l'impression avec les sopranos qui restent toujours au firmament. Il y en a d'autres. Mais oui, gros consommateur. Et puis les petits confinements qu'on a vécu ont fait que la consommation s'est intensifiée. Puis j'ai rattrapé mon retard. J'ai l'impression qu'il y a une série tous les deux jours qui sort.
C'est à peu près le cas. Ouais. Voilà. J'irais même une par jour. Quand vous parlez de sopranos. Qui reste comme ça une impression aussi marquante pour vous, qu'est-ce qu'il y a chez les sopranos qui vous plaît tellement?
Il y a l'alliance de la psychanalyse, il y a les films mafieux, il y a un film de famille en même temps qui se joue, il y a aussi la place de la cuisine. C'est hyper important, je trouve, dans cette série. Il y a une sensualité autour de la cuisine. On a envie
de vous entendre avec Charline Rouveau.
Eh ben oui, exactement. Non mais c'est vrai, moi j'ai envie d'être à table avec pas forcément de discuter des mêmes choses, mais de manger la même chose que. Ouais.
Bon, nous allons parler aujourd'hui de cette série, hein, L'Opéra, qui arrive demain sur OCS, mais en règle générale, vous êtes plutôt opéra, apéro, pareo?
Pareo, apéro. Oui. Opéra, pas trop, hein, pour être tout
pas
à fait
trop,
honnête.
Pas non. Trop, disons-le. Ah, non, ouais. Mais non, non. C'est vrai. On peut aimer l'idée de l'opéra sans non plus le fréquenter tous les jours.
Oui, parce que beaucoup d'a priori, beaucoup de peur aussi. Donc, quand on m'a proposé de pousser la petite porte pour aller voir ce qui s'y passait, ça m'a plu, pour passer un petit peu au-delà des préjugés, ouais.
Raphaël Persona, quand je vous vois et que je sais qu'on va parler d'opéra, j'associe aussitôt votre énergie à ce morceau extrait du premier opéra rock, je mets des guillemets partout, là, le Tommy des Who, et le morceau c'est Pinball Wizard.
Nothing like him in any amusement hall that deftones like it sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine, feeling all the bumpers, always plays clean, plays by intuition, the digit counters fall.
The Who, Pinball Wizard, c'est le morceau qui me fait penser à Raphaël Persona, c'est notre invité aujourd'hui. Raphaël, demain vous serez donc à l'affiche de l'Opéra, la nouvelle série d'OCS, et dans le premier épisode, on vous entend dire « J'ai rêvé que je débarquais nu à l'Opéra pour la première ». Qui a dit ça, le comédien ou Raphaël Persona?
Non, ça a été écrit, c'était dans le scénario original, mais je pense que ça je peux me l'appliquer, ouais, sans doute très souvent,
ouais.
Surtout au théâtre. Oui, je pense que les cauchemars d'avant-première sont terribles, les cauchemars d'avant-premier jour de tournage aussi sont fous. Moi, j'ai une tendance à me dire que ça va mal se passer, un premier jour de tournage, et que je suis prêt à en découdre. Je sais pas pourquoi, dans une espèce de violence débile, et puis ça se passe très bien en général, et donc voilà, ça s'apaise, mais oui, ça arrivait nu, comme ça, avec des gens qui vous huent, oui, ça arrivait très souvent.
À poil et vulnérable donc.
Toujours.
Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que vous envisagez ça comme un affrontement, ces premiers jours, ces entrées en scène?
Eh ben, je lutte contre ça justement, parce que ça c'est un réflexe de peur en fait,
et qui
annihile à mon avis pas mal de sentiments, de bonnes choses. Donc il faut lutter contre ça et puis se dire que les gens vous ont choisi. Mm-hmm. Donc il faut arriver en pleine confiance et puis en étant généreux le maximum.
À l'âge de 12 ans, Raphaël, vous avez suivi un atelier de théâtre et à la fin de celui-ci, vous deviez présenter une scène et vous vous êtes attaqué à Cyrano.
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
Une péninsule, la fameuse tirade des nez. Avec cette réplique, vous avez l'impression de partir loin, très très loin. Est-ce que c'est le point de départ de la carrière de Raphaël Persona que nous connaissons aujourd'hui?
Oui, c'est l'expérience physique d'être sur scène et de dire ces mots-là que je comprenais pas d'ailleurs, mais j'avais vu justement la version que vous avez passée avec Depardieu qui était fabuleuse, fabuleux comme à chaque fois aussi. Mais c'est vraiment cette sensation d'être sur scène. Moi, j'avais pas du tout été dans ce cours au départ pour jouer. J'y avais été parce que je voulais draguer une fille, mais elle est pas restée. Et la semaine d'après, je suis revenu parce que la prof m'avait demandé avec ce monologue que j'avais appris et pour une fois, on m'écoutait. Et après, j'ai compris que c'était pas mes mots. Parce que après, quand je parlais avec mes mots, c'était moins facile. Mais ça a été l'apprentissage, je sais. Voilà. Et j'essaie souvent de garder cette mémoire-là, quoi, de ce plaisir enfantin, en fait.
Cyrano avait perdu sa Roxane, quoi.
Exactement.
Si je comprends bien.
Exactement. Elle était partie très loin. Ouais.
Et avec ce mantra d'un de vos profs de théâtre qui vous disait, tu veux, tu peux, tu dois. Est-ce que vous l'appliquez toujours à la lettre, ça?
Alors, un peu moins. Un peu moins parce que c'est très, très volontariste. Alors, je l'ai été un petit peu, je parle comme si j'avais une immense carrière derrière,
mais quand même, Raphaël Personnel.
Oui, ouais. Oui. Mais j'essaye d'être moins volontariste, de faire confiance un petit peu plus aux imprévus, aux accidents. Voilà.
À 29 ans, un peu lassé de courir les castings, vous vous étiez donné 3 mois pour réussir. Et vous aviez dit à l'époque que si rien ne se passait, eh bien vous étiez prêt à vous reconvertir dans l'huile d'olive. Ça veut dire que j'étais à deux doigts, moi, de manger ma tomate mozza ce midi avec l'huile d'olive Persona.
Ouais, mais je pense que c'est... Ouais. J'ai dit ça une fois dans une interview, ouais. Et ça a été repris.
Ah, c'est repris à chaque fois. Faut jamais répondre aux questions, en fait.
Je sais. Mais en plus, c'était sincère, c'était vrai, mais je pense que c'était parce que ça m'aurait permis d'aller en Italie, en Corse et en Grèce, qui sont pas des pays désagréables. Je pense que c'était vraiment un truc d'oisiveté, en fait. Est-ce que j'aurais été capable de monter ça? Je pense que j'en aurais été incapable. Mais voilà, c'était juste l'attrait du soleil.
Non, puis ça recoupait déjà vos préoccupations culinaires ou gastronomiques, oui, comme vous le voulez.
Ça, hein, c'est très important.
Entre l'huile d'olive et les profiteroles au chocolat.
Les profiteroles, c'est important, oui. Bien sûr, c'est des essentiels.
Bon, et puis, vous avez croisé la route de Bertrand Tavernier et vous êtes devenu le duc d'Anjou pour le film La princesse de Montpensier.
C'est votre beauté qui me trouble, madame.
Si vous poussez jusqu'au château, j'aurai plaisir à vous y recevoir, monsieur le duc.
Et le duc aura plaisir à y faire au moins collation.
Est-il exact, Raphaël Persona, que Tavernier vous ait dit « L'huile d'olive y perdra ce que le cinéma va y gagner
» C'est pas du tout exact.
Du tout.
Jamais il a dit ça.
Je sais, vous l'avez inventé. Oui.
Oui, c'est ça. Et si j'avais répondu oui, avec un
discours d'abord. Ah, ben, je vous
aurais. Bertrand a dit ça, je m'en souviens, le premier jour de tournage. Non, non. Non, pourtant, ça nous réunissait pas mal, ça, les plaisirs de la table. Ouais.
Le point commun, s'il y en a un, entre La princesse de Montpensier et après Quai d'Orsay, c'est évidemment Tavernier, mais entre Quai d'Orsay et cette série L'Opéra, c'est de tourner en décor naturel, enfin les lieux mêmes où se déroule l'intrigue. C'est un avantage ou un inconvénient, ça, pour vous?
Je trouve que c'est un avantage parce que ça nous permet d'être plus réaliste, de pas commencer à jouer. Quand vous êtes au Quai d'Orsay, c'était fascinant. Tavernier connaissait tous les huissiers, donc il demandait des conseils sur des détails pratiques, etc. Et ils étaient là, ils étaient avec nous sur le plateau. Donc si on avait commencé à trop jouer, bon, certes, c'était Quai d'Orsay, c'était une comédie, il y avait une certaine il y avait quelque chose un rythme pas tout à fait naturaliste, mais ça nous forçait à être au plus près de la réalité. Et pour l'opéra, ça a été pareil. On a tourné alors sur les toits, dans le grand escalier, dans les salles. C'est impressionnant d'être là et puis de se retrouver au contact des vrais danseurs aussi qui nous accompagnaient tout au long de la série. Donc non, au contraire, ça rajoute un ancrage dont on a besoin.
Il y a un projet de série pour le mois de mai, l'Élysée.
Ah.
Ah ouais.
Et qui joue le président?
Je sais que le casting est ouvert, ça pourrait vous tenter.
Ben, un jeune président comme ça serait pas mal, non? Enfin, je sais pas, je dis ça, je lance un appel.
Bon, Raphaël, personnage, je passe du coq à l'aile, comme on dit, car la question, quel est votre luxe? À cette question, vous avez déclaré au Figaro Madame un bon poulet et un massage. Eh bien, pour vous faire plaisir, voici un poulet que vous allez masser le temps d'écouter un morceau et de faire entrer mon étoile à moi, Charline Roux. Allez, commencez à masser. En attendant, je vous propose d'écouter ce morceau de Jungle, Talk About It. We'll be right back.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Héroux qui vient de nous rejoindre tout en tutu et pointe. Bonjour Charline.
Que d'intox dans cette émission.
Vous vous déplacez toujours en faisant des entrechats ou c'est tout juste pour notre invité?
Ah non, c'est mon arthrose.
Raphaël.
C'est comme d'hab. Voilà.
Alors, Charline, aujourd'hui, notre invité n'est pas Raphaël Persona, mais Sébastien, le tout nouveau directeur de la danse à l'Opéra de Paris.
Un homme ambitieux, avec une grande idée, refaire de l'Opéra la meilleure compagnie au monde. Une mission moyennement aisée, hein, quand il y a des nouveaux à intégrer, des étoiles à démissionner, des spectacles à monter, dans un milieu certes qui fait rêver, mais qui n'échappe pas à la bureaucratie rigide des endroits dans lesquels il y a une vraie hiérarchie à respecter. Un directeur qui aime la discipline, au propre comme au figuré, c'est un ancien danseur. Alors vous, ce n'est pas votre première incursion, Raphaël, dans le milieu. Vous aviez déjà incarné le chorégraphe Pierre Lacote dans le Noraev de Ralph Fiennes. Quel est votre rapport personnel avec cette discipline ?
Eh bien, au départ, aucun.
Ouais.
Aucun rapport. Je suis absolument pas assidu à la danse. Enfin non, je crois que j'avais jamais vu un opéra avant la série opéra. Donc tout ça est un hasard. Je me suis retrouvé deux fois en effet dans la peau d'un chorégraphe. Sans...
C'est qu'on projette quelque chose sur vous.
Ah, ouais, bah, peut-être. Ouais. C'est sympathique, mais vraiment j'ai pas la souplesse a priori pour ça. Mais en tout cas non. Mais ça a été l'occasion justement de découvrir et puis d'avoir un rapport. Peut-être plus direct avec les danseurs aussi, de découvrir toute cette troupe de danseurs qui nous a accompagnés pendant toute la série, qui a répété pendant des mois et des mois, interrompu par le confinement, donc ils faisaient ça sur Zoom, etc. Donc j'ai pu découvrir ce que c'est la souffrance, parce que c'est ça, hein, c'est surtout ça, c'est une abnégation incroyable, c'est surtout des gens qui se blessent tous les quatre matins, qui doivent assumer ça, avec un concours de promotion interne, par exemple à l'intérieur de l'opéra, qui a lieu tous les ans. Il y a une pression incroyable, et ces gens-là qui résistent et qui font bonne figure en permanence, c'est un vrai exemple. Et puis aussi, c'était... je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la réforme des retraites, il y a eu énormément de grèves et les danseuses de l'opéra étaient sorties sur l'esplanade de l'opéra. Il y avait eu des vidéos comme ça qui avaient circulé sur les réseaux. Et c'était assez fascinant de voir ça et de voir le public justement qui découvrait. Et ben moi, je faisais partie de ces gens-là. J'ai découvert en même temps que la série et Nourieff cet univers qui m'était totalement étranger.
Mais la question de Charline est très juste, puisque après Ralph Fiennes, c'est la deuxième fois qu'on vous demande de jouer un chorégraphe. Donc qu'est-ce qu'il y a chez vous qui fait penser à un chorégraphe?
Je pense peut-être le besoin de diriger.
Non, ouais.
C'est peut-être
le
ça.
Le besoin de pouvoir diriger.
Exactement, okay. Ouais, d'avoir un petit peu ça. Non, il y a peut-être ça. Moi, je me suis beaucoup amusé, je sais, sur les scènes dans l'opéra où je dirige les danseurs. C'est très la première prise est un petit peu gênante parce qu'on se dit, mais on n'a aucune qualification de légitimité pour faire ça face à des danseurs qui ont 20 ans de danse derrière eux. Et puis, très vite, on y prend pas mal de plaisir. Posez la question à Ralph Fiennes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de
nous allons appeler Ralph Fiennes. Allô? Mr. Fiennes?
Yes, Ralph Fiennes.
We were just wondering why you did choose Mr. Persona as a choreographer.
Well, because it's fucking good.
Ah, parce que vous êtes très bon, voilà, la réponse de Ralph Fiennes.
Merci, Ralph.
Merci, Monsieur Fiennes.
You're welcome.
Il a raccroché. Bon, l'opéra, la série, signée Cécile Ducroc. On dit Ducroc?
On dit Ducroc.
Ducroc.
Comme Persona.
Et
exactement.
Je prononce toujours toutes les lettres. Et Benjamin Adam. Non, Adam.
Écrit par Benjamin Adam. Ouais.
Ça ressemble à ça.
Quand on entre ici, c'est uniquement pour la danse.
Il y en a certains qui s'accrochent alors qu'ils devraient juste céder la place.
M'a écarté comme une pouilleuse et vous savez très bien pourquoi. Tout ça parce que personne n'était prêt à assumer. Assumer qu'une danseuse noire soit distribuée comme signe blanc.
J'ai besoin de cet endroit. C'est ma maison, ma famille. Je peux pas partir.
Très bonne gestion de crise. C'est le métier qui rentre.
Alcool, sexe et pouvoir, on dirait le sommaire d'une émission d'M6. C'était forcément un bon pitch d'ailleurs pour une série.
Oui, sans doute. J'avais peut-être pas vu autant l'alcool à la lecture, mais en tout cas le pouvoir. Moi, ça m'a intéressé tout de suite. Ça m'a rappelé un peu.
L'alcool, il est dans le désespoir de cette danseuse qui a l'impression que sa carrière est finie, quoi.
Ouais, l'alcool, les sorties, il y a un désespoir chez elle. C'est remarquablement interprété par Ariane Labette, qui s'est entraînée, pas à l'alcool, mais à la danse pendant des mois et des mois et des mois. Et surtout, oui, le parcours de cette femme qui a le droit à une seconde chance, c'est ça que ça raconte aussi. Ouais. Un tel niveau d'exigence, est-ce que quelqu'un qui a un jour qui faillit, est-ce qu'il a le droit à une seconde chance? Ça racontait tout ça, c'était intéressant.
Mais une série dont il est quand même précisé avant chaque épisode qu'elle ne saurait refléter la réalité de l'Opéra National de Paris, si ce n'est là-bas. Où donc êtes-vous allé chercher votre inspiration pour nourrir Sébastien?
Sébastien, je pense qu'il vient évidemment de plein de directeurs de la danse qui ont existé. Benjamin Adam, justement, vous le citiez, un des scénaristes m'a parlé, parce qu'on n'y pense pas, mais à Nourieff, sa volonté aussi qu'il avait de réformer à l'époque. Je pense qu'aussi tous les profs de théâtre que j'ai pu croiser m'ont un petit peu facilité la tâche pour ce personnage, parce que j'y ai mis pas mal d'entre eux. Non, et puis, je sais pas, c'est l'alliance de plein de choses. Mais après, la vision de plein de documentaires qui ont été faits sur l'Opéra de Paris ou d'autres, on nourrit la série, oui.
Précaution préliminaire, hein, ça ne reflète en rien l'Opéra de Paris. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, c'est bien pire.
Je ne sais pas, je pourrais pas vous répondre.
Il vient me faire la langue de bois.
Non, pas du tout. Mais, non, mais en tout cas.
Non, mais c'est des maisons qui sont aussi célèbres pour leur très très close.
Bien sûr, ouais.
On peut parler de maison close pour l'opéra, mais c'est des très très renfermés avec des luttes intestines très fortes, quoi.
Oui, très forte. Dès qu'il y a un niveau d'exigence important, dans les arts en particulier, forcément, il y a des luttes humaines. Là, on voit aussi des combats syndicaux, on voit aussi des choses qui peuvent exister dans n'importe quelle institution. L'intérêt de cette série, c'est que ça reflétait aussi, moi j'ai l'impression que c'est un miroir de notre société, avec des problématiques qu'on retrouve un petit peu partout.
C'est ce qu'en dit votre showrunneuse, qu'on enferme des gens dans un microcosme qui finalement est extrêmement révélateur de ce qui se passe autour.
Exactement.
On imagine que l'immersion a été facilitée, vous en parliez il y a un instant, quand on joue dans les décors réels, mais l'opéra en tant que lieu, c'est toute une mythologie, pas que dans cette série. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arpentant ces couloirs?
La distance, déjà. Des couloirs qui n'en finissent pas. Je vous avoue que moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est d'avoir la possibilité de tourner sur les toits de l'Opéra de Paris. La vision que vous avez de Paris est unique, évidemment. Non, et puis toute l'histoire, je savais pas. Enfin, il y a tellement d'histoires. On a pu visiter sous la scène de l'Opéra de Paris. La scène, par exemple, est incliné, je crois, de 12%, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être énorme.
C'est énorme, ouais.
12, c'est énorme. C'est assez incliné, ce qui, pour les danseurs, est extrêmement difficile, parce qu'ils doivent adapter, évidemment, leur pas de danse. Je sais pas, moi, c'est ce bâtiment emblématique devant lequel parfois je passe. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être son directeur, c'est ça. avec les rôles. Mais, voilà.
Quand vous passez à scooter devant l'opéra?
Ah, mais je m'arrête et je vois si tout fonctionne bien. Voilà,
moi, quand je passe devant les Invalides, je...
Oui.
Non.
Vous n'allez pas...
Je mets pas un bicorne.
Bah quand même.
Si, c'est parfait. Non, là, vous mentez. Moi, je vous ai vu faire, en fait. Vous l'avez fait assez souvent.
Non, mais alors moi, j'ai le même sentiment en garant ma mobilette le matin devant la maison de la radio.
C'est à vous, tout à fait. Au-delà du gigantisme un peu écrasant du lieu, dans la série, il y a aussi de grandes scènes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédiens, de danseurs, de figurants. On imagine que de par votre formation, le conservatoire, vous avez l'esprit de troupe. Mais est-ce que vous aviez imaginé un jour en intégrer une aussi énorme?
Pas du tout. Et puis avec des qualifications, c'est ce que vous avez dit, il y a des danseurs, des danseurs qui sont devenus comédiens, des comédiens qui sont devenus danseurs. Donc il y a eu plein de parcours comme ça mélangés, et surtout qui se sont retrouvés, on reparle de la pandémie, c'est fatigant, mais aussi pendant les confinements, où chacun a pu se découvrir un petit peu plus, et surtout il y a eu un groupe, vraiment il y a eu un esprit de corps assez fascinant qui s'est formé pendant toute la préparation de cet opéra, enfin de la série.
Raphaël Persona, petit break dans cette émission parce que nous venons d'apprendre une très triste nouvelle, la disparition de Jean-Paul Belmondo.
Ouais.
Voilà, qui nous laisse tous un petit peu sans voix. Mais enfin, vous êtes comédien. Vous êtes comédien.
Ouais.
Qu'est-ce que ça représente pour vous,
Jean-Paul Belmondo? C'est toute mon enfance, c'est la volonté de sauter comme ça sur scène et de faire un bras d'honneur. Je pense à cette image-là quand il était sorti du conservatoire. Ouais, c'est peut-être ça qu'il faut garder, c'est cet homme-là qui bondissait. Je repense aussi là comme ça quand on le voit dans Itinéraire d'un enfant gâté, dans le Magnifique, enfin je sais pas, il y a Peur sur la ville, tous ces films-là. Et puis j'ai eu la chance de le croiser rapidement, ce sourire. Moi, c'est le sourire qu'il avait. Ouais.
Et là, on parle justement en plus d'une série dans laquelle le corps est très important, le mouvement, cette culture-là, lui, il représente quelque chose de ce côté-là, l'acteur très physique, avec une forme de souplesse et de facilité comme ça.
Ouais, c'est vrai qu'il avait ça et bah, je pense que Dujardin en parlerait très bien, parce qu'il a repris ça, il a repris. Il l'a fait sien, c'est pas ce que je veux dire, mais évidemment, c'est un cas. Je sais pas, des acteurs comme ça, il y en a un tous les 50 ans. C'est
et sans généraliser,
je vous avoue,
on fait pas trop les malins là.
Non.
Et sans généraliser, sans aller non plus dans les énormes banalités, il y a des familles d'acteurs. Il y a plutôt la famille Delon, il y a plutôt la famille Belmondo, plus ou moins physique. Vous, physiquement, vous êtes plutôt delonien, si je puis dire. Mais en quoi est-ce que c'est un acteur qui vous a influencé dans votre manière de jouer, dans votre envie de jouer peut-être?
C'est le mot que vous avez utilisé, c'est envie, la joie qu'il a. Ouais. On voit le plaisir qu'il a, qui est communicatif. En permanence, quand il fait une entrée, même dans les films qui sont où il est un petit peu plus bébel, j'allais dire, tac, moins bébel, donc bébel, tac tac badaboum, on a plaisir à revoir parfois ces séquences sur YouTube ou des choses comme ça, sans citer de marque. Mais mais on a plaisir à voir ça parce qu'on voit le plaisir de cet homme-là qui, moi je l'ai vu. Ah, c'est vrai. Attendez, je suis en train de penser à un truc. Je l'ai vu au théâtre dans La Puce à l'oreille, c'est ma mère qui m'avait emmené le voir, et il jouait deux rôles dedans. Il était exceptionnel. Il était arrivé à la fin, j'ai encore son autographe. Ah, j'y pense là comme ça. J'ai encore son autographe et il l'avait signé avec une gentillesse incroyable. Il n'était pas blasé. Pourtant, c'était, je sais pas, c'était il y a 30 ans, j'imagine, quelque chose comme ça. Donc, tout son parcours était déjà fait. Mais il y avait l'envie et les gens l'ont ressenti tout au long de sa carrière.
Charline, ça vous dit quoi, vous?
Moi, j'ai une scène particulière, enfin, qui est devenue une séquence après, grâce entre autres à Florence Foresti, c'était sa manière de dire bonjour. Ouais. Il y avait une séquence juste avant les Césars où elle s'était incrustée dans un film dans lequel il lui apprenait à dire bonjour.
Ouais.
Et en fait, c'est une des manières de dire bonjour à la fois les plus simples et les plus fascinantes que j'ai vues au cinéma. Ça a l'air de rien, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très dur à faire, en fait, d'avoir l'air d'être relativement normal. Et c'est peut-être l'excès. Dites bonjour.
Bonjour.
Ben voilà. Non mais voilà, c'est une forme de simplicité et en même temps de jeu extrêmement direct et hyper subtil. Pas
mon
que physique.
Premier souvenir, je sais pas moi si c'est mon premier souvenir, mais ce qui me revient immédiatement en tête, c'est ça.
Pourquoi t'as l'air triste?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Et que toi on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments.
C'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments.
Pierrot, le fou, évidemment, Jean-Luc Godard, il y a bien, bien longtemps. Et puis, évidemment, moi, le film de Broca aussi, Le Magnifique.
Ah, Le Magnifique,
vous vous souvenez de ça?
Ah,
oui. Où il jouait ce double personnage, un peu inspiré de la vie de Secret de Walter Mitty. Cet écrivain qui s'imagine des aventures pas possibles.
Professionnel.
Puis évidemment, puisque tout arrive en cascade, là, la musique du professionnel, la musique des New Morricone. Enfin bon, ça fait beaucoup de choses qui nous traversent la tête au moment où on apprend la disparition de Jean-Paul Belmondo. On essaie de suivre un peu le cours de cette émission.
Allez.
Bon, eh ben, je crois
c'est
que c'est le moment. Ouais, c'est le moment.
C'est un peu étrange.
Des Pop News.
Un nouveau héros de bande dessinée va bientôt faire son apparition dans les librairies et ce héros, c'est lui.
Mais tu me fais chier! Tu me fais chier! Tu me fais chier! J'en ai marre là, ok? Putain, tu m'emmerdes! Ok? Putain! Moi, si ça continue, j'appelle en France ma traiteur!
Vincent Lacoste qui a posté ce week-end le message suivant sur Instagram. J'ai rencontré Riyad Sattouf il y a 12 ans maintenant. Il a changé ma vie. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que serait mon futur. Il m'a choisi comme premier rôle dans Les Beaux Gosses. Ça fait des années que je raconte des histoires à Riyad sur la vie d'acteur et le monde du cinéma. Il en a fait un livre avec son regard si particulier. Notez donc que le 4 novembre sortira Le Jeune Acteur 1, Aventure de Vincent Lacoste au cinéma et le comédien de préciser. J'ai dû ranger ma fierté pas mal de fois dans ces pages. On a hâte de lire.
Après Tom Jones, c'est au tour d'autres vétérans de la musique galloise, certes un peu plus jeunes, de faire leur retour. Stereophonics, un album baptisé Ucha, un album de rock enregistré en 7 jours, annoncé par un premier single inspiré par ZZ Top, Hanging on Hinges. Et Ucha, le nouvel album de Stereophonics, sortira le 4 mars.
Dwayne The Rock Johnson a une nouvelle mission et c'est lui qui vous l'explique en VF.
Agent spécial John Hartley du FBI, je suis vos exploits depuis longtemps. Chaque ville, chacun de vos casses. Maintenant qu'une notice rouge a été émise contre vous, vous êtes devenus les criminels les plus recherchés du monde. Et je suis le seul à pouvoir vous arrêter.
Oh
ah,
d'où il sort ce blouson? Franchement, ça envoie du lourd. Je suis sûr que quelque part, il y a une vache à poil qui est en train de murmurer. Ça valait le coup.
Celui qui se moque également en VF de ses vêtements, c'est Ryan Reynolds, l'un des criminels les plus recherchés au monde, avec qui The Rock va devoir faire équipe en recrutant aussi un autre bandit, la personne de Gal Gadot. Ça s'appelle Red Notice et non Notice Rouge. Et ce sera le 12 novembre sur Netflix.
France Inter. Pop.
Et Charline Roux, enfin, triste nouvelle donc, la pop culture est en deuil, l'as des as, le professionnel, le magnifique, bref, notre bébelle nationale vient de nous quitter à l'âge de 88 ans. Tac tac, badaboum, merci au patron pour tout et en hommage je vous propose d'écouter un extrait de la BO du magnifique Mexican Paradise. Mexican Paradise, c'était extrait de la BO du magnifique, ce que nous pensons à Jean-Paul Belmondo qui vient de nous quitter il y a un peu moins de 30 minutes et nous sommes en compagnie de Raphaël Persona pour parler de cette série L'Opéra qui sera diffusée à partir de demain sur OCS. Bon, et continuons cette émission. Allez, nous allons parler de James Bond, de la série Succession, des Strokes et de bien d'autres choses encore. Teaser. Alors, nous allons commencer, mon cher Raphaël, votre pop-list, avec un film. Un film d'abord. Le film que vous attendez le plus en ce moment, c'est James Bond. Charline, il a bien du mérite de bonder encore après tous ces longs mois d'attente, non ?
Vous n'avez pas osé.
Si, j'ai osé. Okay.
Contrairement à la sortie en salle, Mourir peut attendre de Cary Fukunaga, Bond, James Bond était censé couler des jours paisibles en Jamaïque, mais évidemment, il est appelé cette fois par la CIA pour une dernière mission, pas de tout repos, l'EHPAD peut attendre.
James Bond, license to kill, in love with Madeleine Swann. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. And life is all about leaving something behind. Isn't it?
Bon, les Anglais avaient James Bond, nous on avait Bebel.
Ouais.
C'est un fantasme pour vous, James Bond, un fantasme d'acteur, c'est un...
Non, mais là, en écoutant, et en pensant à Belmondo, je me disais, c'est vrai que c'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous cinématographiques. Il y en a peu. Je pense que Bebel avait réussi, lui aussi, à installer ça avec son public. Mm-hmm. Il y avait le film de Belmondo qu'on attendait. Après, pour moi, c'était le film de Belmondo qu'on voyait à la télévision. Et pour revenir sur James Bond, c'est pareil. C'est des moments qu'on attend. Il y a une part d'enfance là-dedans. Mmh. Donc c'est vrai que ce gros film, la manière dont il a évolué, moi, je suis toujours assez curieux d'y aller. Donc il y a un plaisir enfantin.
Vous, Raphaël Persona, sous votre table de nuit, on trouve des profiteroles, bien sûr, mais sur votre table de nuit, on peut découvrir La soustraction des possibles. C'est un livre de Joseph Incardona, un polar récent, et si j'en crois mes informateurs, 100% suisse. Ou bien, Charline ?
Ah, on refait les accents ? J'aime bien, moi. Fin des années 80, à Genève, Svetlana, une jeune financière prometteuse, rencontre Aldo, un prof de tennis, vaguement gigolo. Ils s'aiment, mais veulent plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance.
Raphaël Persona, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Bien sûr. Tu sais quoi, René ? J'ai décidé que ma seule patrie, le seul drapeau auquel faire allégeance, est le pognon. Et quand il y a le pognon, on est tous copains. On n'est pas racistes, ni rien. Il n'y a jamais de problème dans les hôtels 5 étoiles. Jamais, t'as remarqué ?
La soustraction des possibles. Le livre qui vous est venu à l'esprit tout de suite, celui que vous êtes en train de lire, que vous venez de lire ?
Alors non, je l'ai lu pendant le confinement et ouais. C'est un livre qui me suit parce que je trouve que son écriture est haletante, intelligente, drôle surtout. Mmh. Moi j'ai découvert cet auteur, Joseph Incardona, j'ai été fasciné par sa drôlerie et son ton. Je le connaissais pas du tout et je voulais en parler parce que je sais que sa sortie était un peu empêchée
ouais,
voilà donc par le confinement et donc voilà je le conseille à tout le monde.
Ça fera un bon film.
Je pense. Ouais. Ah. Vous m'avez vu venir.
Et les adjectifs que vous employez à l'instant me faisaient penser, là encore, à Jean-Paul Belmondo.
Oui.
Vive, drôle.
Ouais.
Ok, très bien, on reste dans le thème. Raphaël, la série que vous attendez, c'est la troisième saison de Succession. Charline, résumez-nous ça pour ceux, les malheureux, qui ne se sont pas encore plongés dedans.
Bienvenue chez les Roy, une famille impitoyable à la tête d'un des plus gros conglomérats médias au monde. Et disons que l'ambiance est moyennement cordiale.
You are Kendall Roy.
Is it true? He's on his way?
I don't see him yet. With his stupid walk.
No drama. We're good. The revolution will be televised.
He's our dad, but he was going to send me to jail. He'd do the same to all of us.
Chevy, are you okay?
Are you part of this family or not?
If I back you against dad, you would need to let me take over.
Whoa, Nelly!
Alors pardon, Raphaël Persona, il n'y aurait pas un point commun entre l'opéra et Succession ?
Je vois pas trop une tension dramatique peut-être, mais je vois pas trop.
Marcia Roy ?
Marcia Roy ?
Non, je sais pas, il n'y a pas Yamabas qui fait une apparition dans l'opéra ?
Non, alors en fait, il en a été question, pour tout vous dire. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je vais me faire taper sur les mains, vous savez ce que c'est. Bon, bref, il en a été question, mais
il
malheureusement...
Il en a été question.
Voilà.
La saison 3 arrive en octobre prochain sur OCS, elle prendra la succession de l'opéra d'une certaine manière.
Évidemment.
Succession.
Ouais.
Alors dites-moi pourquoi vous aimez tellement cette succession.
Succession, alors c'est légèrement inspiré de la vie de Rupert Murdoch avec ses
enfants.
Très
légèrement,
Très légèrement. Non, parce que c'est shakespearien tout simplement, c'est des enjeux énormes avec des personnages hauts en couleur, de la même famille qui sont prêts à s'étriper, c'est toujours fascinant de voir ça, même si ça ressemble à toutes les familles, mais avec un petit peu plus d'argent.
Un tout petit peu plus.
Voilà.
Raphaël Persona, terminons cette pop liste très endeuillée, je le rappelle, par la disparition de Jean-Paul Belmondo, qu'on vient de nous apprendre. Enfin, terminons cette pop liste avec votre morceau du moment, et ce morceau, c'est Ode to the Mets des Strokes. Pourquoi ce morceau, Raphaël? Si vous arrivez à nous convaincre, on l'écoute en entier, c'est à vous.
Oh là là, attendez, ben justement parce que comme Happiness is a Warm Gum des Beatles, vous avez plusieurs morceaux en un. Ouais. C'est ça qui est fascinant. J'ai aimé follement cet album et cette chanson en particulier. Je reviens toujours au confinement, le type qui a été frappé, marqué quoi. Mais c'est vrai, il y a ça et la voix déchirante de Julien Casablanca. Voilà.
Vous avez convaincu, Charline?
Oui, bien sûr.
Ouais, ben,
très bah moi, on m'a convaincu à Strokes hein, déjà. Donc,
oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, et ben alors on écoute le morceau. Allez, c'est parti.
Not gonna do that. Come out of control.
Ode to the Mets, c'est un morceau stroxien. C'était le choix de notre invité Raphaël Persada. Un choix, c'est marrant parce que c'est un, enfin, c'est pas le mot qui convient, mais c'est un morceau assez mélancolique.
Ouais.
Et qui correspond à l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons là en ce moment, une demi-heure après avoir appris la disparition de Jean-Paul Belmondo, alors qu'on était en pleine conversation au sujet de cette série avec cet excellent garçon qui est Raphaël Persada, la série L'Opéra, qui passe à partir de demain sur OCS. Je voudrais qu'on termine cette édition de Pop-Pop-Pop par l'évocation de Jean-Paul Belmondo, si vous voulez bien, à travers deux, trois extraits de films. On a retrouvé ça rapidement à bout de souffle. Godard, c'était en 60.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Et évidemment, mythique. Et vous, Raphaël, je vous demandais ce que ça vous évoquait comme ça, sans réfléchir plus loin, vous m'avez dit L'Homme de Rio.
L'Homme de Rio, ouais. Parce que je crois que c'est le style Bebel qui naît à ce moment-là. Il est encore très jeune.
Ouais.
Et je me souviens d'une partie qui est assez marrante, parce qu'on est dans un film d'aventure, et puis il y a un vrai film au milieu, un film d'auteur, où on voit Belmondo, justement, qui découvre Rio, et il y a une très belle musique brésilienne qui résonne à ce moment-là, et on voit toute la vous parlez de mélancolie, on voit toute la mélancolie sur le visage de Bebel à ce moment-là, dans une comédie populaire. Je me souviens de ça. Ouais.
Ça, c'était en 1964, L'Homme de Rio de Philippe de Broca. On peut évidemment aussi penser à Peur sur la ville d'Henri Verneuil, ça c'était en 75.
T'en prie, messieurs.
Le tellier, j'écoute.
Faites immédiatement redescendre vos tireurs. S'ils n'ont pas quitté les toits dans 30 secondes, je tue les otages.
Valdec, restez calme. J'ai envoyé personne sur le toit. Je vous ai promis que tout se passerait gentiment. Je vais arranger ça.
Quand vous aurez corrigé votre erreur, je vous dirai mes conditions.
Peur sur la ville, Henri Verneuil en 75. Moi, j'aurais bien écouté, mais enfin, on n'a pas eu le temps matériel là de le retrouver. Un petit bout de Week-end à Zutkot, qui est un film que j'avais absolument adoré avec Bebel. Mais on peut terminer par ça, L'As des As de Gérard Horry, c'était en 82.
Quel genre de type je suis, d'après toi?
Le genre aventurier.
Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier.
Voilà. Petit blanc, ça nous laisse absolument sans voix cette annonce de la disparition de Jean-Paul Belmondo. Raphaël, merci quand même de nous avoir tenu compagnie.
Ben merci beaucoup.
Pendant cette heure de pop-pop-pop un peu troublée, L'Opéra, c'est la série dans laquelle vous jouez qui commence demain sur OCS et c'est évidemment recommandé par Pop-pop-pop. Et j'en profite pour vous annoncer la rediffusion demain à 9h du Boomerang de Jean-Paul Belmondo. Merci Charline.
Merci Antoine, merci Raphaël.
À demain. Beaucoup.